Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. C'est un livre destiné à la jeunesse qui est au sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Un livre qui est aussi un témoignage, celui d'Isaac Milman qui a été un enfant caché et dont les parents sont morts assassinés à Auschwitz. Isaac Milman, qui vit désormais aux États-Unis, est un illustrateur et il a, dans ce livre, dessiné les scènes marquantes de ce moment très particulier de son enfance. Et si le livre existe aujourd'hui dans une version française, c'est aussi grâce au CERCIL, Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret, qu'il a édité et qui a guidé l'auteur sur les lieux de cette enfance française dans les années de la guerre et de la déportation. Avec nous pour en parler, Nathalie Grenon, qui est la directrice du CERCIL à Orléans. Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer, Nathalie Grenon, vous pouvez nous dire comment vous avez rencontré Isaac Milman? Comment s'est fait cette rencontre et ce travail?
Elle s'est faite en deux fois. Et de façon, dans une chronologie un petit peu particulière, puisqu'en fait nous avons été contactés par Odile Belkédar, qui au Centre MEDEM a eu l'occasion de voir le livre édité en anglais. Elle a été particulièrement touchée par cette histoire, écrite en plus dans un anglais un petit peu particulier, parce qu'Isaac va émigrer aux États-Unis, il a 14 et 15 ans, et encore aujourd'hui, il nous dit avoir des difficultés à écrire l'anglais. Et pourtant, il a souhaité écrire ce récit en anglais, on pourra en reparler plus tard. Et donc, Odile nous a contactés pour éditer ce livre. Le CERCIL n'est pas un éditeur en tant que tel, c'est avant tout un centre de recherche, un centre de culture et de pédagogie, donc notamment sur la transmission, mais depuis 20 ans, la force des choses a été que le hasard aussi des rencontres et puis surtout la difficulté de certains éditeurs de se lancer dans des aventures long cours, le CERCIL s'est mis à éditer à la fois des témoignages et en permanence ces témoignages sont éclairés par un travail d'histoire, par un corpus de notes très que nous on considère comme étant très importante et puis par des cahiers documentaires avec des documents reproduits dans de très très bonnes conditions, parce que nous travaillons avec une excellente graphiste et un bon imprimeur, ce qui nous permet d'avoir un rendu des documents d'archives le meilleur possible. Donc Odile nous contacte pour cette édition. D'emblée, on est réticent, ne connaissant pas l'auteur, ne voyant pas bien le lien immédiatement avec les camps de Pithiviers de Bonne-la-Rolande, parce que c'est quand même la condition sine qua non à ce que nous nous lançons dans un projet d'étude, évidemment, et donc de publication à terme. Et puis lorsqu'elle nous a envoyé le texte et lorsque j'ai vu le nom de l'auteur, Isaac Milman, New York, je me suis souvenue que quelques années auparavant, nous avions fait une recherche pour un petit garçon qui avait immigré aux États-Unis et qui recherchait les traces de son père interné à Pithiviers. Et donc, immédiatement, nous sommes retournés dans son dossier et nous nous sommes rendus compte que non seulement il y avait son papa qui avait été interné à Pithiviers, mais que nous avions aussi retrouvé l'internement de sa mère. Donc plus rien ne nous empêchait de mener une aventure commune avec Isaac et Odile pour la publication en français de son récit autobiographique.
Oui, parce qu'effectivement, quand on lit ce livre, qui est un livre très sensible sur cette histoire et qui est vraiment raconté à hauteur d'enfant, on voit aussi beaucoup de documents d'archives, des archives brutes qui sont reproduits, des certificats, des documents administratifs, des vieilles photos qui sont effectivement reproduits d'une manière extrêmement réaliste. On a l'impression qu'ils sont glissés finalement entre les pages. Et c'est ce travail, peut-être plus particulièrement, qui est l'apport du CERCIL à ce livre.
C'est très difficile de publier, lorsqu'on est un centre de recherche, de publier un témoignage. Vous le savez, un témoignage, c'est les souvenirs, c'est aussi, et c'est ça qui est extraordinaire chez Isaac, c'est-à-dire que quand il ne sait pas, il n'écrit pas, il ne réinvente pas. Donc il y a des ellipses aussi dans son récit, et ces ellipses-là nous intéressaient bien. On n'y a pas touché, même quand nous, on pouvait éventuellement lui apporter des informations sur ce qu'il avait oublié. Néanmoins, et il le dit très très bien lui-même, certains de ses souvenirs ne lui paraissaient pas cohérents. Du coup, il ne faisait que l'évoquer ou il n'en parlait pas, ou ce lui semblait totalement irréel. Par exemple, la visite d'Isaac à son papa dans le camp de Pithiviers. Et c'est effectivement lorsque nous lui avons, quand Catherine Thion a réussi à lui trouver, Catherine Thion est l'historienne du CERCIL, a réussi à lui ressortir, lui trouver la liste des autorisations de visite concernant son père, et on voit donc le nom de sa maman, virgule, un enfant, donc ce un enfant, c'est Isaac, qu'effectivement, ce souvenir qu'il avait en lui n'était pas un souvenir reconstruit, était la réalité. Et donc, on a pu, du coup, non pas réécrire avec lui, mais en tout cas préciser son écriture pour rendre effectivement cet événement totalement tangible, puisqu'il était réel.
Alors peut-être on peut raconter un peu, c'est l'histoire d'Isaac Milman, donc qui à l'époque s'appelle Isaac Strimpfman, donc qui habite à Paris, dans une famille d'immigrés polonais, juifs, installés dans le 11e arrondissement. Et puis voilà, vient l'occupation, la mise en place du régime de Vichy, les premières mesures anti-juives, et bientôt, voilà, la vie de cette famille se complique beaucoup.
Elle va basculer le 13 mai 41 au soir, puisque le père, comme 6000 autres juifs étrangers, va recevoir donc ce qu'on a appelé après le billet vert, hein, et donc ça va être la première grande rafle des juifs en France, qui va aussi sonner l'ouverture des camps de Pithiviers de Beaune-la-Rolande. Donc le 14 mai 41, il est transféré le jour même à Pithiviers, comme 3700 autres personnes arrêtées le jour même. Donc moi, ont été envoyés à Beaune-la-Rolande, l'autre à Pithiviers. Donc le papa d'Isaac, lui, va être envoyé à Pithiviers. Donc il va y rester plus d'une année avant sa déportation par le convoi numéro 5. Isaac va pouvoir venir avec sa mère au moins une fois rendre visite à son père. D'autres enfants ont pu venir plusieurs fois, à plusieurs reprises. Isaac, lui, n'a pu venir qu'une fois. Et donc c'est ce souvenir marquant, c'est aussi la dernière fois où il a vu son père, ce dernier geste d'au revoir au travers des barbelés est resté figé dans sa mémoire. Mais malgré cela, malgré ce geste, ce dernier regard, il doutait lui-même de cet instant.
Oui, dans le livre, il raconte ce voyage en bus au départ de la place de la République, je crois, pour aller vers Pithiviers. Il s'endort dans le bus, il y a d'autres familles juives, il a cette sensation. Et effectivement, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que les choses sont racontées comme ça en pointillé, comme des petits flashs, des souvenirs qui lui restent. Et voilà, vous avez pu retrouver effectivement les documents qui racontent bien qu'il était effectivement à Pithiviers pour rendre visite à son père. Et puis dans le livre, il explique que donc, finalement, il est aussi arrêté avec sa mère après avoir tenté de fuir en zone libre.
En fait, il va échapper donc à la rafle du Veldiv avec sa maman, à la fois grâce à sa maman et grâce également à des habitants dans l'immeuble. Et puis après moult péripéties, ils arrivent à avoir de faux papiers, à trouver un passeur et la traversée de la ligne de démarcation va tourner au cauchemar. Et effectivement, ils vont être, et leur passeur et eux deux, arrêtés. Ils sont envoyés tous les deux dans la prison d'Autun, qui est une des prisons à l'architecture terrible. C'est une prison totalement ronde qui amplifie l'enfermement. Et on imagine l'effet que ça a pu avoir sur ce petit garçon. Et la maman, pressentant le pire, va effectivement soudoyer un gendarme, un policier là-dessus. Voilà, c'est pas super clair, mais en tout cas, un représentant de l'autorité. Elle va lui donner de l'argent, une adresse à Paris, et ce gendarme, cette autorité en tout cas, va faire passer Isaac comme étant un enfant malade. Et évidemment, Isaac ne comprend pas, il n'est pas malade, il ne comprend pas pourquoi sa maman se sépare de lui. Et c'est un drame absolu pour les deux, on imagine bien. Et à l'hôpital, il va se rendre compte qu'il est dans une salle où il n'y a que des enfants juifs en très bonne santé, mais que le personnel médical fait passer pour comme étant malade. Vous le savez, les Allemands, et on le voit nous dans les camps de Pithiviers, Beaune-la-Rolande, avec les 4400 enfants, les Allemands ne déportent pas les enfants malades. Donc à Pithiviers, Beaune-la-Rolande, on va soigner les enfants malades dans les hôpitaux de Pithiviers, Beaune-la-Rolande, une fois qu'ils seront guéris, ils vont être mis dans les convois de déportation. Donc en fait, les gendarmes et le personnel hospitalier d'Autun ont dû se rendre compte de cela et ont mis en place une stratégie pour sauver un maximum d'enfants.
Et donc il est effectivement renvoyé à Paris, et là il va à l'adresse, enfin on l'accompagne jusqu'à l'adresse où il est censé trouver refuge, et finalement la voisine, elle-même effrayée par les arrestations, elle-même sous pression, refuse de le recueillir.
Et il se retrouve à la rue. Beaucoup d'enfants se retrouvent aussi à ce moment-là à la rue. Totalement désorientés.
Oui, ils sont livrés à eux-mêmes, bien sûr, à ce moment-là.
Totalement désorientés. C'est là où des comités comme le comité Amelot vont jouer un rôle. Là, il va faire une rencontre avec une femme extraordinaire, Ena, qui va d'abord le placer dans une famille totalement maltraitante. Et ça aussi, il faut en parler, parce que beaucoup de ces enfants cachés l'ont été dans des familles C'est, là, en l'occurrence, je pense qu'elle ne sait pas qu'il est juif. Hein. Elle aurait été maltraitante avec quel que soit l'enfant qu'elle avait dont elle avait à s'occuper. Parfois, on connaît des histoires, les personnes deviennent maltraitantes quand ils se rendent compte que l'enfant est juif. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ena vient lui rendre visite, elle-même est persécutée. Hein. Elle a des difficultés pour se transporter de Paris en province. Elle arrive néanmoins à lui rendre visite et là, elle se rend compte effectivement des souffrances qu'il endure, donc elle le retire et elle va le mettre chez une femme formidable, Madame de Volder, qui est très pauvre et malgré les difficultés qu'elle encourt va apporter beaucoup d'amour à cet enfant.
Oui, qui va découvrir la vie à la campagne. Alors c'est ça qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est qu'à la fois c'est une histoire terrible, une histoire tragique, très dure, et puis à la fois c'est parsemé de moments de souvenirs, de moments d'enfance, de moments d'insouciance, parce que malgré tout l'enfance reste ce moment particulier où on est pris dans les événements, mais à la fois pris dans le quotidien.
Des moments de bonheur, il le dit lui-même, des moments de bonheur, c'est paradoxal. Il a deux copains, ces deux copains... Ils sont dans son cœur éternellement. Ils lui ont tout apporté aussi avec Madame de Volder pendant ces mois tragiques où il est entre deux. Il ne sait pas ce que sont devenus ses parents. Il porte un autre nom. Il va s'appeler Jean de Volder. Hein. Il porte un autre nom. Il va à l'école. Il ne sait pas ce que demain sera fait. En principe, ce n'est pas le problème d'un enfant de savoir ce que demain sera fait. Parce que s'il est entouré d'amour, et ça, Boris Cyrulnik le dit bien dans sa préface, il va continuer à se construire. Et je crois que Madame de Volder, malgré l'absence des parents d'Isaac, va lui apporter cette sécurité qu'Ena ensuite va également lui apporter au lendemain de la guerre. Ce qui va permettre à Isaac de se reconstruire.
Alors il va vivre une deuxième déchirure puisque Madame de Volder souhaitait l'adopter à la fin de la guerre. Et puis finalement, il est donc placé dans un foyer juif dans lequel il ne se plaît pas. Alors on comprend bien sûr le souci de ces militants de garder les enfants juifs dans un cadre juif, notamment après la Shoah. Et pourtant, pour certains enfants, ça a été des moments déchirants.
Ça a été une nouvelle souffrance, ça a été un nouveau drame. Isaac le dit très bien. Mais nous rencontrons de nombreux enfants qui ont vécu cela. Ça a été des choix terribles pour les associations, pour les familles, et les enfants n'ont pas bien compris quelle était leur place dans tout ça. Aujourd'hui, on leur demanderait leur avis. Il y aurait une cellule psychologique, une cellule de crise. Là, on ne leur demande pas. On l'enlève de chez Madame de Volder. Il vit cela encore comme un arrachement supplémentaire. On le place là. C'est pas tant la vie juive dont il ne veut pas, c'est la vie de groupe. Il devient anonyme par rapport à un directeur qui a géré une pénurie alimentaire, des enfants qui viennent de milieux très différents, avec une vie culturelle et cultuelle très différente. Donc c'est de cela dont Isaac ne veut pas immédiatement. Alors qu'il était unique chez Madame de Volder, il était unique dans le regard d'Ena.
Alors, il est finalement pris dans les circuits d'adoption et rejoint les États-Unis. Donc là aussi, c'est encore une nouvelle vie. Et par rapport à la question de la langue, vous l'évoquiez au départ, c'est effectivement un enfant qui était destiné à être un enfant français, vivre en France avec ses parents de Pologne et qui se retrouve à devenir un adulte américain.
Il est devenu adulte, vous le dites très, très justement, c'est-à-dire qu'à 15 ans, 14-15 ans, on a le sentiment qu'il bascule tout de suite. Hein. Mais beaucoup, même ceux qui ne sont pas partis aux États-Unis, il n'y a pas d'adolescence, c'est-à-dire il passe de l'enfance à adulte. La chance d'Isaac, et sa femme nous l'a redit récemment lorsque nous nous sommes rencontrés, c'est d'être arrivé dans une famille très aimante, qui ont été d'une patience incroyable et qui ont compris qu'il était pris dans une situation de loyauté vis-à-vis de sa vraie mère et de son vrai père. Il explique qu'il a eu d'immenses difficultés à dire maman-papa. Heureusement, il y a aussi la langue. Mamdad, c'était pas maman-papa, donc ça ne prenait pas la place de ses parents. Mais jusqu'à la fin, et jusqu'à leur décès, il n'a jamais pu dire ces mots. Et dans son cœur, ils ne sont jamais devenus sa vraie mère et son vrai père. Alors que pour sa femme et ses enfants, ils étaient les vrais beaux-parents et les vrais grands-parents. Donc ce conflit de loyauté, à un moment donné, a été aussi difficile à vivre pour ses propres enfants.
Alors peut-être vous pouvez nous dire, Nathalie Grenon, comment vous avez travaillé avec Isaac Milman et quel a été finalement le travail du CERCIL autour de ce livre ?
Il y a d'abord eu le travail de traduction d'Odile, donc écrit dans cet anglais un peu maladroit, mais qui du coup, vous l'avez dit justement, on est à hauteur d'enfant, et je pense que le fait qu'il ne maîtrise pas bien l'écriture anglaise a aussi aidé à ce vocabulaire simple, ces phrases simples, parfois bancales. Et on a souhaité garder le côté un peu bancal de certaines phrases. On aurait aimé que ce soit un petit peu plus fluide. Et puis on s'est dit, ah, il a 6 ans, il a 7 ans. Et c'est pas reconstruit. Il le fait pas exprès de le faire comme ça, parce que son anglais est comme ça. Et donc Odile, dans la traduction, a respecté. Et quand on a retravaillé avec Isaac, en précisant les choses grâce aux archives, on a essayé de garder parfois ces ruptures de ton, ces mots pas tout à fait justes, pas tout à fait précis. Et puis, on a réalisé donc ce dossier documentaire pour appuyer, étayer ce qui, chez lui, même était, semblait être un souvenir trop diffus pour être vrai. Donc on s'est dit que, et en plus le CERCI le fait régulièrement dans ses éditions, que pour les enfants, mais également pour les parents, voire les grands-parents, voire les éducateurs, il était important de montrer que cette histoire n'était pas qu'un récit autobiographique. C'était un fait historique, un événement historique qui avait été organisé, pensé, administré par des vrais gens. Qu'il y avait des vraies listes, qu'il y avait des vrais ordres de déportation. Et tout ça s'incarne dans le récit autobiographique et dans les documents d'archives.
Oui, parce que donc c'est un récit, le récit d'un enfant, effectivement, c'est un récit qui est destiné à la jeunesse, ce récit autobiographique. Et c'est le reflet aussi de ce souci pédagogique qu'il y a au CERCIL de s'adresser aux enfants, de s'adresser aux jeunes, de leur raconter cette histoire-là. En n'omettant rien et pour autant en n'étant pas non plus dans un récit trop brutal et trop difficile. Et là, ce livre en est un bon exemple.
Il est important d'éviter l'effet de sidération. C'est une histoire terrible, terrible. La Shoah, voilà, j'ai pas besoin d'expliquer ici. Donc la difficulté est de dire les choses, de les dire réellement, de ne rien cacher, mais effectivement de trouver un angle qui permet encore une fois d'éviter la sidération ou, ça peut être le cas chez certains adolescents, la fascination. Donc effectivement, à la fois le travail graphique, le choix du papier, vous avez vu, c'est un papier un peu velouté, permet effectivement d'entrer assez en douceur, en fait, dans ce récit. Et c'était la douceur aussi de la vie d'Isaac Milman d'avant. C'est-à-dire que pour aborder cette histoire, elle ne commence pas en septembre 39 avec la déclaration de la guerre. Elle ne commence pas en 41 avec la première arrestation. Ses enfants avaient une vie normale avant. Et donc, au CERCIL, comme dans d'autres institutions, on a toujours beaucoup travaillé et insisté sur l'avant. L'immigration. Pourquoi la France? Le rapport à la culture, le rapport à l'école, les camarades. Ses camarades qui, souvent d'ailleurs non-juifs, vont aider à sauver les enfants. Et puis l'après. Parce que la Shoah ne s'arrête pas non plus le 8 mai 45. Et on le voit quand Isaac nous parle encore aujourd'hui de ses cauchemars, de sa peur de voir disparaître de sa mémoire l'image même de ses parents. Voilà, c'est une histoire qui continue encore aujourd'hui. Donc on travaille sur ces aspects-là autour des récits autobiographiques et toujours étayés par des documents d'archives retrouvées soit dans les familles, ce sont les lettres, ce sont les photos, soit dans les archives publiques.
Alors est-ce que vous pouvez peut-être, Nathalie Grenon, nous dire ce que le CERCIL propose, ce que le CERCIL organise à destination des enfants et puis à destination des enseignants aussi? Je crois qu'il y a des formations pour les enseignants.
On essaie aussi, et ce livre y répond bien je crois, de travailler aussi sur parents, enfants, parents, grands-parents. C'est-à-dire sur les questions de transmission, parce qu'il nous semble que si on ne travaille que sur les enfants, il va y avoir ensuite un problème. Il faut en discuter avec l'adulte. L'enfant ne peut pas, quel que soit son âge, ne peut pas rester seul avec ça. Donc il faut qu'il en discute avec l'adulte. Et donc on essaie de mettre en œuvre aussi des activités, des livres qui permettent cet échange au sein de la famille. Parents, grands-parents aussi. Nous, on voit beaucoup de grands-parents venir avec leurs enfants. Et donc, voilà, on essaie de trouver les outils appropriés pour cela. En ce qui concerne les scolaires, alors du CM2 jusqu'au lycée, mais également des jeunes en rupture qui vont se retrouver dans ce qu'on appelle des classes relais, ou des jeunes en apprentissage. En fait, ces jeunes en apprentissage, souvent, ont quitté l'école en quatrième. Donc, la Seconde Guerre mondiale étudiée en troisième, ils ne l'ont jamais vue. Donc il nous semble important d'aussi toucher ce public, on va dire, plus en difficulté avec l'écrit, plus en difficulté avec l'institution scolaire. Donc on met en place un certain nombre d'ateliers, toujours avec au cœur de ces ateliers, quelle que soit la thématique, les thématiques sont larges, des outils, des instruments faciles à analyser. C'est-à-dire, ce n'est pas un autre cours d'histoire que l'on va mettre en œuvre, c'est mettre l'enfant en capacité, ou l'adolescent, en capacité d'analyser les documents que l'on va lui soumettre pour qu'il puisse lui-même se poser les questions et trouver lui-même les réponses s'il y en a.
Alors le CERCIL, c'est aussi donc un musée et puis c'est aussi un mémorial. C'est le mémorial des enfants du Veldiv. Peut-être vous pouvez nous parler aussi de ça, Nathalie Grenon. Mm-hmm.
Donc le CERCIL existe depuis 1991 et depuis janvier 2011, donc c'est ouvert à Orléans, un musée. Musée mémorial des enfants du Veldiv et des camps donc de Pithiviers, de Bonne-la-Rolande et de Jargeau, puisque dans le Loiret, il y avait un troisième camp très important qui était le camp de Jargeau, où ont été internés des Tziganes. Et là aussi, en atelier, c'est important de travailler avec les enfants sur la problématique de l'internement des Tziganes, parce qu'on voit évidemment la différence de nature entre une politique d'extermination des Juifs et une politique d'internement, de persécution et de mise à l'écart. Donc, avoir sur le territoire les deux nous permet aussi de pointer aussi la particularité des choses. Donc, ce musée mémorial ouvert depuis maintenant un an et demi, propose une exposition, on va dire, plutôt didactique sur l'histoire de ces trois camps. Et puis une salle, évidemment, bouleversante, consacrée aux 4400 enfants internés à Pithiviers, Bonne-la-Rolande et morts en déportation. Évidemment, cette salle incarne aussi tout le travail de Serge Klarsfeld depuis toutes ces années, puisque chacun de ces 4400 enfants est représenté avec son nom, son prénom, l'âge qu'il avait le jour de sa déportation, et une photo quand nous en avons. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lundi soir encore, nous avons reçu en plus une photo du petit Alexandre, donc 6 ans. Et en fait, c'est sa cousine est venue visiter le musée, et elle a découvert cette salle et s'est rendue compte qu'il n'y avait pas la photo d'Alexandre. Donc elle est allée voir dans ses archives et elle nous a envoyé lundi cette photo. Et c'était évidemment, comme à chaque fois, bouleversant de pouvoir mettre un visage sur un prénom et un nom.
Merci encore. Je rappelle donc Nathalie Grenon que vous êtes la directrice du CERCIL et que les éditions donc du CERCIL, puisqu'il y a aussi des éditions maintenant, viennent de publier le livre d'Isaac Milman, « Je m'appelle Isaac et j'ai été un enfant caché ». C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Deux adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.